chaque fois que je commence une série, je me dis, cet album va être impeccable. Là, il n'y aura pas une erreur de dessin, il n'y aura pas une erreur de rythme. Ça va être génial, ça va être drôle, ça va être bon. Et puis, on attaque dans cette idée. Et en général, à la fin de la première page, on se rend déjà compte que c'est foutu. Et quand on arrive à la quatrième ou cinquième, on n'a plus aucune illusion. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Il y a d'autres dessinateurs qui se trouvent absolument géniaux du début à la fin. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux-là.
C'est étrange d'annoncer un grand atelier fantôme de Claire Bretéché parce qu'on l'imagine toujours là, l'auteur des Frustrés et d'Agrippine, assise dans son atelier de Montmartre en train de chercher, de dessiner, d'écrire, tout en buvant un Coca Light. Celle qui fut la première à s'imposer dans un monde d'hommes, dans son domaine en tout cas le dessin, l'humour en BD, est morte le 10 février dernier et nous avions envie, durant une heure, de rendre hommage à son talent. Si elle nous entendait, elle dirait quelque chose comme « Mon talent, tu parles, choisissez quelqu'un d'autre, les morts, c'est pas ce qui manque » et elle partirait dans un grand éclat de rire. Bretéché, et oui, on prononce comme ça, Bretéché était modeste et pourtant, en dessinant les bébés, les ados, les femmes et les hommes de son temps, elle a montré l'étendue de son talent, regard pertinent, avant-gardiste, caustique mais tendre sur ses contemporains, des dialogues soignés, un trait précis, fruit d'un travail inlassable, une vie consacrée au dessin que nous allons tenter de vous raconter. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Vincent Josse.
Vous êtes chez vous, mais avec nous, durant toute cette heure consacrée à celle que vous n'hésitez pas à qualifier de génie. Vous êtes l'auteur de La Légèreté de Delacroix. Vous avez longtemps fait du dessin de presse et vous êtes la première femme à être entrée à Charlie Hebdo, comme Catherine Bretéché en son temps fut la première femme à entrer à Pilote.
Quel beau lapsus, Catherine Bretéché,
ah, oui.
C'est magnifique.
Comme Claire Bretéché, ah oui, vous voyez, hein. En duplex, ça doit vous plaire. En duplex de Strasbourg, je salue en direct de France Bleu Alsace un autre dessinateur. Bonjour Blutch.
Bonjour Vincent.
Vous aussi l'auteur d'un autre paysage de vue sur le lac, de variation. Vous avez de l'admiration pour l'auteur de Cellulite et d'Agrippine. Vous la connaissiez bien. Vous allez nous raconter Claire Bretéché. Enfin, je salue celle qui est à mes côtés en studio, la conservatrice de la rétrospective Claire Bretéché à la Bibliothèque publique d'information en 2015. Bonjour et bienvenue Isabelle Bastien-Duplex.
Bonjour Vincent Josse.
On commence en musique. Dans son atelier Montmartre 3, la dessinatrice écoutait toutes sortes de musiques, notamment celle de Chronos Quartet, ce quatuor à cordes qui a travaillé avec des musiciens de tous les horizons, les minimalistes comme Philippe Glass ou la chanteuse de Bollywood, Asha Bosley. Ce titre-là d'ailleurs plaisait beaucoup à Claire Bretéché. Doum Maroudoum.
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Dham Maru Dham.
Catherine Meurice, est-ce que sur les murs de votre appartement, il y a du Claire Bretéché, des planches de la dessinatrice ?
Oui, j'en ai une sous les yeux qu'on m'a offerte récemment pour mes 40 ans. Et d'ailleurs, il y en a un parmi nous là qui a participé
à l'achat.
Oui. L'achat du cadeau.
Oui.
Blutch a été généreux, aussi, paraît-il.
Exactement.
Ça nous a coûté bonbons.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette planche ?
Alors, c'est une planche, j'ai frustré, tandis que je me déplace. J'espère que tout à coup, toute la technique ne va pas s'écrouler. C'est une planche des années 70. On reconnaît sa patte. C'est une femme qui est écroulée dans un fauteuil, qui rentre du boulot, qui est épuisée, qui ronchonne en face d'elle. Il y a son mari qui lit le journal, on le distingue pas bien. Elle a mal au ventre, elle a voulu téléphoner, mais elle pouvait pas. Enfin bon, il lui arrive plein de merde. Elle est crevée. Et puis la dernière case, il y a le mari qui lève la tête du journal et dit « Quand est-ce qu'on mange ?» Voilà, c'est tout.
Et si je fouillais là dans votre bibliothèque pour chercher du Bretéché, je trouverais peut-être le destin de Monique ?
Oui, un album que j'aime beaucoup, très moderne, oui, qui parle de procréation assistée, c'est grotesque, c'est burlesque, c'est très très en avance sur son temps. Enfin, c'est tout elle, quoi. C'est vraiment génial.
C'est vrai que c'est l'époque du premier bébé éprouvette, quand elle dessine et qu'elle raconte ces femmes qui ont envie d'avoir un enfant et qu'elle parle de GPA, qu'elle parle de PMA, et que du coup la BD n'a pas vieilli.
Exactement, c'est une bande dessinée qui date de 1983, je crois. Et ça n'a pas vieilli, oui.
Je me souviens d'une planche où le personnage principal, donc une comédienne, veut un enfant de son agent. Lui, il n'a pas envie du tout parce qu'il en a déjà deux autres. Elle va demander à sa femme de ménage d'être mère porteuse. Elle accepte la femme de ménage portugaise pour 60 000 francs parce que sa sœur a demandé 60 000 francs pour faire la même chose. Elle a une boule au sein, la femme de ménage. Et la comédienne n'en a rien à faire du tout. Elle ne pense qu'à elle et à la grossesse. Elle montre finalement une forme d'égoïsme, alors qui, ici, en l'occurrence, est féminin. Mais elle n'hésite pas non plus à ne pas être tendre avec les femmes parfois.
Oui, mais c'est ça qui est génial chez elle, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Parce qu'elle dessine des femmes avachies, soumises, égoïstes, en colère, etc., elle parle de toutes les femmes, et en dessinant cela, elle manifeste un féminisme éclatant, quoi. Elle est femme libérée, quoi. C'est ça qui est génial. On n'est pas obligé de dessiner des femmes libérées quand on veut être une femme libérée. L'essentiel est de tout dessiner. Et Bretéché dessinait toutes les femmes et tous les hommes. Et vraiment, tout le monde prenait des claques et on se reconnaissait dans toutes ces femmes. On peut se reconnaître dans ce personnage de comédienne égoïste qui veut absolument avoir un enfant, quand bien même on serait moins égoïste si on n'aurait pas d'enfant. C'est assez prodigieux. C'est le miracle Bretéché.
Blutch, vous avez quoi, vous, dans votre bibliothèque ? Est-ce qu'il y a une présence physique, j'imagine, de Bretéché chez vous ?
Écoutez, Vincent, j'ai une affiche dans le couloir qui est l'affiche d'une exposition de 1983 où elle présentait les travaux préparatoires, les esquisses de ce livre, justement, Le destin de Monique. Donc, c'est une affiche magnifique parce que c'est un dessin, c'est un brouillon. C'est un dessin vraiment griffé, jeté, très rapide, une grande nervosité. Moi, je me lasse pas de le regarder.
Blutch, à quel moment vous découvrez, vous, en tant que lecteur, Claire Bretéché ?
Eh bien, je découvre Bretéché enfant à travers un personnage que j'affectionne toujours, c'est Lulite. Et je ne sais pas comment ça me tombe sous la main, parce que ce n'est pas une lecture spécifiquement de petit garçon, mais ce personnage m'a très vite conquis. Et je suis rentré dans Bretéché par Cellulite.
Cellulite,
et je reste
une
toujours
sorte
fidèle.
De princesse médiévale.
Ouais, Cellulite, c'est une princesse insupportable, égoïste, et puis en même temps irrésistible.
On va écouter Claire Bretéché parler de son personnage, qui était un personnage pour pilote, hein.
Ouais, pilote, fin des années 60, je crois.
Le premier personnage, c'était Cellulite.
Oui.
Comment il est né, ce personnage ?
Eh ben, c'est la bande que j'ai envoyée à Pilote. Ben, je cherchais un personnage. Enfin, il y avait une théorie très, très pénible de la part des rédacteurs en chef, dont de Goscinny, qui disait, on ne peut pas faire un personnage féminin ridicule parce que les femmes ne sont pas ridicules. Et on ne peut pas, il trouvait que c'était monstrueux. Il avait toute une théorie que je serais incapable de vous répéter, mais, ah oui, alors un de ces trucs, il était d'une mauvaise foi absolument épouvantable, parce que il disait, quand on dessine une femme, il faut qu'elle soit belle, donc on peut pas la faire ridicule. Or lui, il dessinait la femme d'Ange Canonix, qui était une Barbie, et la femme d'Abra Raccourci, qui était une mémère, une mémé. Donc il y avait le choix entre ces deux types de femmes. Et moi, je voulais absolument faire une femme moyenne, dessiner moyen, comme on dessinait les hommes. c'est-à-dire ni belle ni moche, qu'il soit une bonne femme normale. Voilà.
Elle apporte ça, entre autres, à la bande dessinée, Catherine Meurice, des femmes qui ne sont pas forcément ou des canons ou des femmes très moches, mais des femmes, comme le dit Bretéché, moyennes.
Oui, c'est drôle de l'entendre dire ça. Oui, en effet, on trouve très souvent dans la bande dessinée, et depuis longtemps, des femmes soit très belles, avec souvent des gros seins, hein, ou des femmes très moches. On a ça dans Astérix, mais on a ça aussi, je me souviens, chez Cabu, hein, on a des petites jeunettes mignonnes comme tout, et puis des mères Denis, et il y avait presque une incapacité à dessiner des femmes moyennes, et Bretéché est venu, heureusement, voilà, un peu tout défoncer, quoi, et changer un peu changer de visage de ces femmes. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, on se reconnaît toutes dans ces femmes, qu'elles soient belles, moches, avachies, moyennes, snob ou pas. Il y a une forme d'indolence dans son trait, dans les postures de ces personnages féminins, qui est associée à un trait assez nerveux, comme le disait Bloch tout à l'heure, et ce mélange fait que on s'y retrouve, quoi.
Isabelle Bastien-Duplex.
Oui, j'allais. En fait, Catherine en a parlé, mais quand on entendait Claire Bretéché dire que, enfin, la manière de dessiner les femmes, et ça me rappelait ce que disait Catherine à propos de Cabu, qui dessinait soit des superbes jeunes femmes, soit des vieilles dondons, quoi.
Des moches. On va écouter Gaëtan Roussel, c'est un nouveau titre de la playlist de France Inter, et on se retrouve tout de suite après. Isabelle Bastien-Duplex, Blutch et Catherine Meurice.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil, sur un continent, sur une île. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour seul ou dans une file, dans les rues sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. Un jour, la tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais. Tu ne savais pas que tu mourrais un jour.
Je me tourne vers Isabelle Bastian Duplex pour évoquer un peu la naissance et la jeunesse à Nantes de Claire Bretéché. Elle a toujours eu des mots assez durs sur son éducation et sur son milieu familial. J'ai même entendu dire un jour « Moi, j'ai rien à voir avec ma famille ». Qu'est-ce qu'elle rejetait de cette famille et de cette éducation catholique ?
Donc elle naît en 1940 à Nantes, dans un milieu bourgeois, catholique. Elle est en pension, elle est pensionnaire chez les sœurs. Et elle s'ennuie, l'ennui est justement un moteur contre la flemme. Et elle dessine beaucoup, elle invente des bandes dessinées à l'âge dès l'âge de 10 ans, des personnages. Elle lit, elle adore Tintin et Spirou. Et quand plus tard elle intégrera Spirou, elle est absolument ravie, elle adore.
En fait, j'ai toujours fait de la BD quand j'étais gosse. Parce que comme je m'ennuyais énormément, d'ailleurs presque tous les gens qui font de la BD vous diront la même chose. Quand on s'ennuie tellement, on fait de la BD. Sauf pour les gens de ma génération qui n'avaient pas de télé, évidemment, et pas de guerre de moyens de transport. Moi, j'avais pas de télé, chez moi, il n'y avait pas de téléphone. Enfin bon, je vous dis, c'était le Moyen-Âge. Donc, je faisais de la BD. Voilà.
Catherine Meurice, l'ennui chez Bretéché l'amène à dessiner. Tant mieux, d'autres lisent quand ils s'ennuient, mais tout le monde ne crée pas. Elle, si. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui a le mieux dessiné l'ennui dans ses planches. On voit des femmes, des hommes discuter, qui sont avachis dans un canapé, vous le disiez tout à l'heure, qui n'ont pas grand-chose à faire, qui livrent leurs réflexions sur la vie et qui font part de leur état d'âme. Ce sont des gens qui s'ennuient.
Oui, oui, et c'est peut-être elle qui a dessiné le mieux l'ennui. Ouais, et puis l'ennui associe, enfin, l'ennui qui provoque le rire, en fin de compte, parce que sinon, quel ennui. Mais non, son tour de force, c'est ça, c'est qu'elle... Elle ne nous emmerde jamais, au contraire, elle nous divertit et elle nous rend moins bêtes.
Blutch, l'ennui chez Bretéché, vous l'aimez comme nous ?
Ouais, mais moi je nuancerais un peu parce que elle parle d'ennui, mais moi je parlerais de réserve. Je pense que c'était quelqu'un de réservé. Et souvent les gens qui se mettent à dessiner, en général, sont des gens plutôt dans l'enfance réservés et qui se lâchent, qui parlent, qui crient sur leur petite feuille de papier dans un coin de table de cuisine. Je pense que pour elle aussi, c'est une manière de résister aussi, de résister à son milieu, de résister à cette ambiance, de résister à sa famille. Tout au long de son travail, il y a tout le temps, on voit des notations sur les curés, le catholicisme, les idées étriquées, jusqu'à l'arrière-grand-mère d'Agrippine. Tout le long, on sent, on voit, son enfance est jamais loin à Bretéché. Je crois qu'il y a même une page ou deux ou même plus dans, alors il faut vous rafraîchissez ma mémoire, dans Les Frustrés, qui sont carrément écrits en latin, je crois. On voit vraiment un curé qui parle avec un évêque ou je ne sais plus quoi. Il y a vraiment tout au long de cette enfance qui l'a marquée. Elle a l'air de s'en détacher, mais en fait, ça la poursuit quand même tout le long, je trouve.
Et puis, voilà. Elle crée la vie passionnée de Sainte Thérèse d'Avila.
Ah bah oui.
Et ce sont des aventures fantastiques. Ouais. Et puis l'extase de Thérèse et son côté quand même très, très terre à terre. Elle fait des affaires.
Elle s'interrogeait sur la foi, sur sa foi.
On dirait, parce que cette enfance bretonne, excusez-moi, on la voit dans tout son travail, c'est toujours présent.
Ce qui est drôle, c'est que c'est le Pèlerin, le journal catholique Le Pèlerin, qui l'emploie pour la première fois. Elle est payée par Le Pèlerin quand elle commence à dessiner et quand elle entre dans la vie professionnelle, c'est grâce à la presse catholique.
Oui, c'est grâce à la presse Isabelle catholique Bastien Duplex. Elle court les rédactions parce que elle arrive à Paris à 19 ans. Elle commence par enseigner le dessin et puis ça durera quelques mois. Elle abandonne et ensuite elle se dit bon, elle a envie de dessiner. Alors elle pense au dessin humoristique plutôt qu'à la peinture parce que elle veut en vivre. Elle veut manger grâce au dessin. Donc en fait elle parcourt les rédactions, elle laisse des dessins, elle envoie des dossiers et effectivement c'est le Pèlerin et puis ensuite toute la presse Bayard, la presse jeunesse éducative et notamment Record pour lequel elle a beaucoup dessiné.
Et puis elle entre appelée par Goscinny à Pilote, ça se passe pas bien forcément tout de suite, il lui fait dessiner des choses qu'elle ne sait pas dessiner et il lui dit en gros vous reviendrez quand vous saurez les dessiner.
Alors c'est avant là, c'est pour L'Os à moelle. C'est Goscinny qui lui propose de dessiner donc cette histoire, le facteur Résus. Il demande de dessiner des choses techniques, difficiles, et puis bon, la collaboration se passe pas très bien, effectivement, et puis en gros, il lui dit, bah, revenez quand vous dessinerez mieux.
Elle se vexe pas, elle revient.
C'est ça, ouais. Il la sollicite plus tard pour pilote, mais en 69, plusieurs années.
On se retrouve tout de suite après avoir écouté un compositeur qu'elle aimait beaucoup, Claire Bretéché, c'est Arvo Pärt. Elle l'écoutait en travaillant, enfin, entre deux planches, parce qu'elle n'écoutait pas forcément de la musique quand elle était en train de travailler, mais elle avait du mal, comme tout le monde, à prononcer son nom.
Si, mais comment on dit Arvo Pärt ?
Arvo Pärt.
Ah bah, moi, quelqu'un de très calé m'a juré qu'il fallait dire Arvo Pärt.
Ah bon ?
Et après, quelqu'un d'autre très calé aussi m'a dit qu'il fallait dire Arvo Pärt. Arvo Pärt. Arvo Pärt.
Au téléphone avec nous, nous avons une autre amie de Claire Bretéché, c'est Yasmina Reza. Bonjour.
Bonjour.
Yasmina Reza, la romancière, l'auteur de théâtre, Art, le dieu du carnage, Babylone, c'est vous. Comment faites-vous la connaissance de Claire Bretéché ?
Eh bien, je crois que j'ai connu Claire en 1993, quelque chose comme ça, chez des amis communs. Lors d'un dîner, il y avait Guy, Claire, le père de mes enfants et moi, et ça a été comme une sorte de coup de foudre amical, on ne s'est plus quitté.
Guy, c'est Guy Carcassonne qui était le mari et le père de Martin. Voilà. Ils ont eu un enfant ensemble. Votre amitié était faite de quoi ? Qu'est-ce que c'était que d'être ami de Claire Bretéché ?
En réalité, quand on s'est rencontrés, le coup de foudre a été favorisé par le fait qu'elle connaissait mon travail. Moi, je connaissais le sien. Et il y avait un fond d'admiration, enfin, en tout cas de ma part, extrêmement grand. Et puis, j'étais totalement séduite par la personne, un être tout à fait rare et exceptionnel. Et je dirais qu'elle me manque énormément aujourd'hui parce que c'était quelqu'un avec qui j'avais un type de rire. Elle avait le même penchant que moi pour la frivolité, mais comme la seule chose d'un peu sérieux, d'un peu sérieuse auquel se rattacher. C'était un art de vivre très particulier, un art de penser très particulier.
Elle disait que ce qui lui faisait le plus plaisir, c'était d'aller acheter des fringues avec ses copines.
Oui, bien sûr, ça oui, probablement. Encore que j'ai jamais été acheter des fringues avec elle, mais et moi aussi, de mon côté, j'aime beaucoup acheter des fringues, mais je ne sais pas, une frivolité d'esprit, une frivolité de comportement. Elle était d'une liberté inouïe, mais le mot a été inventé pour elle. Elle avait quelque chose d'une légèreté, d'un manfoutisme, mais qui était d'une très grande profondeur en même temps. Et surtout, il y a une chose qui m'a toujours frappée chez elle, parce qu'elle avait une physique de mannequin, enfin, elle était vraiment d'une très grande beauté et d'une beauté un peu froide, un peu et presque un peu dédaigneuse de visage. Or, c'était la personne la plus chaleureuse qui soit. Vous arriviez, son visage s'illuminait, vous serrez dans les bras, c'était quelqu'un de très tactile, très très chaleureux.
Elle n'aimait pas qu'on dise que c'était une grande observatrice de la société, elle n'aimait pas quand on lui rappelait que Roland Barthes avait dit « Vous êtes une sociologue, Claire Bretéché ». Pour elle, c'était ridicule tout ça.
Je ne sais pas si c'était ridicule complètement. Je pense quand même que ça devait la toucher un petit peu de voir que son travail avait une résonance un peu plus grande que celle de la BD normalement. Enfin, oui, ça la faisait rire. Au fond, elle s'en foutait complètement aussi. C'est-à-dire, elle se percevait pas du tout comme ça, pas du tout. Elle mesurait pas son importance sociologique. D'ailleurs, la sociologie était une chose qui était complètement en dehors de son champ de vision. Si vous voulez, c'était pas quelqu'un qui aurait voulu avoir comme aujourd'hui 100 000 likes quand elle sort un dessin. Vous voyez, elle avait une sorte d'indifférence à la réception. Elle n'avait pas d'indifférence à l'argent, d'ailleurs. Hein. Elle n'avait pas d'indifférence au fait que ça fonctionne, parce qu'elle elle aimait vivre, elle avait des goûts, pas de luxe, mais enfin des goûts assez... assez luxueux d'une certaine façon pour ce qu'elle aimait, et elle était contente de pouvoir vivre de son travail, mais au-delà de ça, tous les compliments, elle s'en méfiait terriblement.
On va l'écouter évoquer sa façon de travailler. Est-ce qu'elle est sociologue? Est-ce qu'elle est journaliste? Écoutez sa réponse.
Non, définitivement non. Alors, je trouve alors vraiment... ça me vexerait beaucoup qu'on me pense journaliste. C'est pas que je trouve c'est vexant, que ce soit vexant le moins du monde, mais c'est pas du tout ma façon de marcher. Au contraire, moi je trouve que je vois rien, je n'observe rien, c'est une espèce de reconstitution. Peut-être que je m'aveugle complètement, mais c'est comme ça que je le vois. C'est un travail d'imagination.
Vous diriez ça, Yasmina Reza, un travail d'imagination?
C'est pas le mot exact que je prendrais, moi. Je dirais plutôt un travail d'intuition. Elle avait été extrêmement poreuse sans le savoir. Et elle avait l'intuition du monde extérieur et de la vie et d'elle-même et de tous les gens qu'elle rencontrait. Il y avait un autre cerveau qui captait tout. Mais elle n'était tout sauf journaliste. Elle était tout sauf une femme qui avait des opinions. Elle était, vous savez, l'opinion, c'est déjà une forme de capitulation, une forme de reddition à la règle du groupe. Elle n'avait pas du tout ça. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle était complètement indépendante et elle se percevait pas comme un membre actif de la société.
Est-ce que la lecture des Frustrés, d'Agrippine ou d'autres BD, d'autres planches de Claire Bretéché, Yasmina Reza, a pu vous influencer? Est-ce qu'on peut trouver peut-être une influence dans des dialogues, dans des situations, dans votre théâtre, dans vos romans?
C'est très difficile de dire, très difficile de savoir. Moi, j'avais une admiration sans borne pour son travail. Et j'ai plutôt tendance à dire, mais peut-être que je me trompe, qu'on s'est trouvé un peu jumelles par certains aspects, plutôt que l'influence, parce que elle était un peu plus âgée que moi, mais c'est pas non plus une toute autre génération. Non, je crois qu'on avait un terrain un peu commun, et enfin, moi j'avais une admiration absolue. Je trouve que c'est un génie, hein. Moi je peux employer ce mot hein, la concernant.
Eh bien, merci d'avoir été notre invitée et d'avoir témoigné sur votre amie, la dessinatrice Claire Bretéché, Yasmina Reza.
Merci beaucoup, hein. Merci, à bientôt.
Catherine Meurice, Christian Blutsch, oui. Vous avez entendu le mot génie à propos de Claire Bretéché. Et c'est un mot que vous employez volontiers, vous, Catherine Meurice, quand vous parlez de la dessinatrice.
Ah oui, sans hésiter, oui.
Mais dites-nous en quoi elle était un génie.
Bah déjà, je trouve que ce que vient de dire Yasmina Reza est très juste hein, à propos de l'intuition et de l'invention. Vraiment, je crois que Claire ne copiait pas la réalité, elle la réinventait. Donc il y avait déjà son génie se manifestait comme ça. Et puis aussi, il y a le génie du langage. On a souvent parlé de la langue qu'elle a inventée, cette espèce d'oralité qu'elle arrive à retranscrire. Et elle disait que, en fait, écrire beaucoup dans ses bulles, ça lui permettait d'éviter de faire un dessin fastidieux, parce qu'en fait, ça l'emmerdait. C'est pas qu'elle capitulait devant la difficulté d'un dessin, parce qu'elle savait très bien dessiner, mais elle, pour elle, le texte, la langue, ça lui procurait du plaisir, je crois, et c'est là-dedans, son génie se manifeste également, quoi. Je croirais, oui.
Christian Blutsch, le génie, si on continue d'employer ce mot, il apparaît de quelle manière, selon vous? Je crois que vous avez parlé d'elle comme d'une cathédrale, comme de Notre-Dame, Claire Bretéché, à vos yeux.
Oui, je l'appelais Notre-Dame de la bande dessinée. Non, mais il y a quelque chose de très troublant chez elle, vraiment. Il y a quelque temps, les éditions d'Argo ont ressorti des recueils d'histoires courtes de pilotes. du début des années 70, fin 60, début 70.
L'époque où elle dessine Cellulite, entre autres.
Voilà. Et puis aussi cet album magnifique qui s'appelle Salade de saison, que j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire courte. Donc c'est un recueil de toutes les histoires de pilotes, de tous les auteurs de pilotes, les plus grands, les plus prestigieux, les plus célèbres. Eh bien, à la relecture, vous vous rendez compte, et c'est peut-être là que réside le génie de cette dame, c'est que ces planches qui ont 50 ans ne vieillissent pas. Alors que il y a là des tas d'auteurs que j'adore, que j'admire, eh bien, il y a un côté suranné, dépassé souvent chez eux, et elle, ça ne bouge pas.
Comment vous l'expliquez ?
Ça ne bouge pas. Eh bien, c'est ce qui est troublant, et c'est ce qui est mystérieux, et c'est peut-être ce qu'on appelle le génie. Ben, on l'a expliqué depuis le début de l'émission. Je pense que c'est cette manière d'observer les autres, d'observer et de retranscrire. Et cette manière-là, c'est le mystère de Claire. Enfin, voilà. C'est ce qui fait que ce travail est vraiment troublant. C'est que ça ne bouge pas. Alors que ça a été écrit en 70, 73, 85, 88, etc. Mais ça ne bouge pas. Je veux dire, les personnages sont toujours aussi présents, aussi vivants, aussi actuels. C'est certainement ce qui en fait, à mes yeux, un grand artiste.
Dans votre album Variation, vous rendez hommage à vos grands maîtres, aux dessinateurs que vous aimiez déjà enfant ou adolescent, et vous avez dessiné à la manière d'eux. Il y a une planche que vous consacrez à Bretéché qui est extraite
deux, de... J'en ai fait deux.
Moi, je me souviens de celle de Salade de saison.
Ouais, j'ai fait une planche de cellulite que j'ai... Et donc, cette planche de Salade de saison que j'ai refaite.
Et effectivement...
Peu, ça m'a donné du fil à retordre de recopier un dessin de Bretéché.
Quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui était difficile ?
Eh bien, il y a une espèce de... Parce qu'elle dit beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et d'essayer de se caler là-dessus, c'est difficile. Il y a les blancs, il y a beaucoup de blancs, elle laisse de l'espace, et puis il y a un trait qui jaillit d'un coup, et bien ça, pour arriver à ce niveau-là, il faut se lever de bonne heure. Donc j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu plus de mal à refaire une planche de Bretéché qu'une planche de Giraud, par exemple, ou de Gottlieb. C'est un travail de funambule, et je ne suis pas sûr d'avoir réussi d'ailleurs.
Tu fais beaucoup de brouillon ?
Oui, je fais beaucoup de brouillon.
C'est pas d'un premier jet
Non, pas du tout, c'est très léché.
Tu peux me parler un peu de...
On me dit souvent que le texte est très soigné et que ça fait contraste avec un dessin. On me dit enlever pour être gentil, mais ça veut dire torcher, tu vois. Et ça me rend furieuse parce que je soigne énormément le dessin. Parce que je passe beaucoup de temps à ce que ça ait l'air spontané.
Isabelle Bastien-Duplex, vous qui, je le rappelle, avez organisé une rétrospective en 2015, Claire Bretéché. La qualité du dessin, le travail acharné qui était le sien, on ne l'imagine peut-être pas quand on ne la connaît pas, mais tout ça était bien réel et Blotch le confirme.
Oui, d'ailleurs, elle raconte qu'elle conserve tous ses brouillons parce que sa mère l'a critiquait beaucoup en disant qu'elle faisait rien, qu'elle ne travaillait pas.
Elle lui disait « tu es une feignasse
». Et donc, elle a cette habitude de conserver tous ses brouillons, et c'est assez caractéristique de ce lien qu'elle conserve tout de même avec sa famille, ses origines. Et sa mère lui a appris les notions d'autonomie, d'indépendance. Et ça, c'est très, très important, parce qu'il faut quand même resituée dans l'époque. Elle arrive en 59-60 à Paris, une jeune femme, et effectivement, elle veut gagner sa vie, et elle est d'une indépendance folle.
Elle ira même jusqu'à s'auto-éditer.
Elle s'est auto-éditée, elle a publié donc les 5 volumes des Frustrés à partir de 75. Et à un moment, quelqu'un lui dit « Ah, mais elle est frustrée, vous avez vraiment pas l'air de les aimer. » Et elle dit « Ah bah si, moi je les aime beaucoup, ils m'ont permis d'avoir mon appartement à Montmartre.
Ouais, » Et sa grande notoriété.
Puis une aisance financière aussi, parce qu'il faut dire qu'au début, elle vivait très très... Elle vivait pauvrement, quoi.
Oui, elle disait, j'étais sale parce que je vivais dans une chambre de bonne et l'eau était sur le palier, donc je n'étais pas très propre. Elle est très drôle quand elle raconte ça. On continue d'évoquer la mémoire de Claire Bretéché dans le Grand Atelier sur France Inter. Claire Bretéché qui nous a quittés en février dernier, après avoir écouté Fouché, c'est une anglaise, Deep End. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I had to come flip the script. I
Got a big bone to pick, got the short end of sticks. So we made a fire dead, let it burn to a crisp. And that's a surefire flip. She's a boss, she's a. I take that as a compliment. I see her moving real low, believe I'm on a high note. Always leave it loyal, mama read me thorough. Yeah, better wake up, it's on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wick, got flavor. Part of my d***s in makeup. Pay her, do it and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. To light this bitch up. Life ain't fair, you fight for your cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, not a lion woke up. You hiring my crying lip. In a minor event, I finally slipped. Built on nobody's amend, nobody went in. Contain what I'm bottling in. It's gonna be done. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wick, got flavor. Part of my sin makeup.
Après l'expérience pilote, arrive 1973 dans la vie de Claire Bretéché, date importante, puisque Jean Daniel va la faire entrer au Nouvel Observateur et les frustrés vont naître.
Alors il me dit, si je te vois, tu penses bien que c'est pas pour te parler de ton âme, quand est-ce qu'on couche ensemble? J'étais embêtée, alors je lui dis, écoute, je suis embêtée, parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Alors il me dit, bravo, un argument comme celui-là, fallait le trouver. Enfin, si je te vois, c'est pas non plus pour ton cerveau, alors quand est-ce qu'on couche?
Oh là.
Et il me dit, ah, vous êtes toutes pareilles, les femmes libérées, vous me faites mal, tiens. Quand il s'agit de faire des discours, ça va toujours, mais en fait, vous êtes encore plus coincées que vos grands-mères. Alors moi, je savais plus quoi lui dire, hein. Alors je lui dis, de toute façon, je suis frigide. Alors il me dit, tiens, elles disent tout ça en ce moment, ça doit être le système défensif dernier cri. En tout cas, même si c'est vrai... c'est tout simplement que t'es mal baisée, ma pauvre chérie. Alors tu préfères rester toute ta vie dans cet état? Sans compter que tu ferais bien d'en profiter pendant qu'il y a encore de la demande. Parce que je suppose que t'es au courant, mais dans 5-6 ans, c'est terminé pour toi.
Connard!
Alors je me suis dit, le plus simple, ce serait de lui dire la vérité. Qui me plaît pas et que je peux pas le supporter. Mais je me suis dit, c'est pas possible de lui dire. Ce serait pas gentil. D'ailleurs, il me croirait pas.
Quand vous êtes entrée à l'Observateur, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire?
C'est ça qui était terrifiant, c'est qu'ils m'ont demandé de les critiquer. Jean Daniel m'avait dit très précisément qu'il fallait que je sois le contre-pouvoir. Ça met à l'aise, hein,
oui.
Vraiment. Alors, qui étais-je? Vous rappelez l'importance qu'avait l'Observateur. L'Observateur et le Monde, c'était les gourous de la France entière. Moi, je connaissais absolument rien en politique, je n'avais pas l'intention de m'informer, parce que ça ne m'intéresse pas, et ça m'intéressait encore moins à l'époque. Et puis je me sentais tout à fait insuffisante, parce que quand même, c'était pas des imbéciles dans l'ensemble. Hein. Donc qui étais-je moi pour les critiquer? C'était ridicule. Donc je trouvais ça insensé, évidemment tentant. Tout a été dit contre les gens de droite et les gens de gauche, cette espèce d'aristocratie de gauche qui avait la parole, personne ne la contestait. Alors c'était tentant. Et puis en plus, il m'énervait beaucoup, 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 beaucoup.
Après avoir entendu un extrait sonore des Frustrés, puisque Claire Bretéché pour France Culture avait fait une adaptation avec des comédiens, on entend Claire Bretéché qui dit à quel point elle a été surprise par cette proposition Catherine Meurice, et c'est vrai qu'elle était sublime, cette proposition. Jean Daniel, le grand patron du Nouvel Observateur, qui dit « Venez et moquez-vous de nous, s'il vous plaît ».
Oui, oui, en effet, quelle invitation. Et comme elle le dit, c'était quand même pas des idiots qui étaient à la tête, enfin qui composaient ce journal. Et je crois qu'une fois de plus, elle a fait confiance à son intuition. C'est toujours marrant de l'entendre dire que elle aimait pas la politique, elle se foutait de ci, elle se foutait de ça, et en fait, elle allait juste être libre et faire ce qui lui chantait, quoi. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a réussi à se faire cette place. À se frayer un boulevard, en fait, à l'Obs, et c'est, je trouve ça assez admirable, quoi. Pour moi, là, c'est un modèle. Enfin, j'essaie d'avoir ce je m'en foutisme comme modèle, j'y arrive pas toujours, mais
Alors, elle c'est vraiment aussi, important.
Isabelle Bastion-Duplex.
Oui, elle s'est beaucoup plaint aussi de ce travail, parce que quand même, cette collaboration, elle a duré 35 ans, quoi, pratiquement 35 ans.
Et elle se plaignait de quoi ?
Elle disait qu'elle a passé son temps à se plaindre, à geindre, et c'était difficile pour elle, mais elle a aussi beaucoup aimé. Et je voulais juste dire qu'avant le Nouvel Obs, en fait, elle avait collaboré au Sauvage, qui était une revue lancée par Claude Perdriel, qui avait aussi le Nouvel Obs. Et elle avait créé ce personnage fantastique qui est le bouleau occidental, qui était génial. Quoi.
Un chien,
une sorte de chien.
Lubrique.
Et sa femelle, Guiguite, qui n'arrêtait pas d'être enceinte, d'accoucher, qui à un moment a eu envie d'avorter. Et puis là, elle s'est heurtée aux religieux de leur décharge. Quoi.
Je note qu'Isabelle Bastion-Duplex aime particulièrement le chien Lubrique dessiné par Claire Bretéché. Vous êtes retrouvés, même si vous étiez encore tout jeune à l'époque, Bludge, vous avez une cinquantaine d'années, vous êtes retrouvés dans les frustrés, dans la manière qu'avait Claire Bretéché de regarder finalement le mouvement post-68art, la bien-pensance de gauche, ces hommes et ces femmes qui font des psychanalyses, qui consomment énormément, c'était la pleine société de consommation à l'époque. Est-ce que vous vous retrouvez dedans, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs?
Bien sûr, complètement. Les frustrés, c'est un coup de maître. À cette époque-là, il y a aussi le lancement de l'écho des savanes qu'elle crée avec Gottlieb et Mandrika. Dès 13-14 ans, j'avais un album des frustrés à la maison, c'était l'album numéro 3, où on voit une femme en t-shirt, culotte, chaussettes.
Oui, sur son lit.
Sur son lit, ouais. Et ce dessin, mais je m'en lasse pas, ça fait 35 ans. Je l'avais, quand j'étais ado, j'avais posé la couverture devant mon bureau, en facing, comme on dit vulgairement. Pour moi, premièrement, c'est quand même toujours ça, c'est ce dessin magnifique, fantastique.
Je suis en train de regarder justement la couverture des Frustrés 3 avec cette femme en chaussettes roses, et t-shirt vert et culotte noire. Je m'aperçois seulement maintenant, puisque vous m'en parlez, que ce personnage est en train de pleurer.
Oui, elle pleure.
Elle a une larme.
Ouais.
Dans une absence de décor, parce que le décor n'était pas forcément utile pour elle. Elle allait à l'essentiel avec son trait. Catherine Meurice.
Oui, bien sûr. Je me souviens quand je l'avais rencontrée la première fois avec Julie Birman, on préparait l'album Drôle de femme, qui était un portrait de pionnière, de comédienne qui avait été sur le terrain de l'humour, Dominique Lavanant et d'autres. Enfin bon, bref, Claire Bretéché nous avait raconté son amie Lavanant. Et quand on était allé chez elle, Claire nous avait dit « Bon, je ne veux parler que de l'anodin ». C'était vraiment le mot d'ordre, on ne parlera que de choses anodines. Et on a l'impression que toute sa vie, ça a été ça. Elle préférait le superficiel, l'anodin, etc. Mais c'était sans doute une façon de regrouper dans son œuvre. Moi aussi, je trouve ce mot, comme toi, Blotch, peut-être un peu prétentieux, mais bon. C'était pour regrouper dans son œuvre tout le reste, c'est-à-dire la profondeur, l'intelligence, ce trait extraordinaire dont Blotch parle, qui moi aussi me fascine. Il y a une maturité dans son trait. Je trouve pas d'autres mots parce que c'est déjà quelque chose qu'on trouve rarement chez les dessinateurs, c'est la maturité du trait. Il y a quelque chose d'inoxydable, d'indémodable, quelque chose qui tient tout l'édifice, et pourtant c'est juste un trait de plume. Et c'est fascinant, et c'est un dessin qui... Là, je disais qu'il l'avait lu enfant, moi je l'ai lu plus tard, Bretéché, mais c'est un dessin qui ne nous prend pas pour des enfants. Alors que c'est un travail qui peut parler de l'enfance, on parlait tout à l'heure de ça, l'enfance est présente dans ce qu'elle raconte, on lâche pas son enfance comme ça, surtout quand on est créateur, je crois, on est même obligé, je crois, de tenir par la main son enfance. Mais, et pour autant, son dessin est tout sauf puéril, et il y a quelque chose qui nous grandit en fait dans son trait.
Ce qui est beau aussi, c'est que tous tes dessins chez elle, quand elle écrit, et elle écrivait évidemment beaucoup dans ses cases, l'écriture est magnifique, et elle est aussi un peu une forme de dessin, Blotch.
Ouais. De toute façon, pour moi, l'exercice de la bande dessinée, c'est du dessin écrit et de l'écriture dessinée. C'est-à-dire que tout cela est mêlé. Ce qu'il y a de remarquable chez Bretéché, c'est qu'elle n'était pas dupe. C'est aussi là que réside, c'est aussi là peut-être qu'il y a un peu un secret là, le secret de son talent, de son génie, c'était qu'elle n'était pas dupe, des autres, elle n'était pas dupe de la société, elle n'était pas dupe des grandes idées, et surtout elle n'était pas dupe d'elle-même.
Ce qui rejoint
ça la résume pas mal.
Ouais. Qui rejoint la première archive qu'on a entendue, qui est assez connue, où elle dit qu'elle commence un bouquin en se prenant pour un génie, et puis à la page 2, elle est certaine d'être une merde, quoi. Ça, c'est toujours très drôle.
Oui, non, mais elle n'était pas.
Et en fait, elle
n'était pas
de rien,
du tout. Ouais, elle n'était pas éblouie par sa propre personne.
Hein. Elle était très lucide aussi. Et on a beaucoup dit qu'elle était féministe. Elle-même se définissait comme violemment féministe quand elle était jeune.
Sans être militante.
Mais voilà. Et elle dit qu'elle n'était pas militante parce que, en fait, elle appliquait à soi-même ses théories, ses idées à soi-même et à son entourage. Quoi. Elle n'était pas moralisatrice. Oui. Quoi.
On ne peut pas se quitter sans évoquer la peintre qui était Claire Bretéché, comme les Catherine Meurice, comme les Blutch aussi. On sent qu'il y a un besoin d'élargir son horizon chez ces trois-là, si j'ose dire. Isabelle Bastien-Duplex, elle a peint Claire Bretéché à l'huile, elle a dessiné au pastel, elle a peint d'après photo, d'après nature. On voit son fils Martin dans ses toiles, on voit son mari Guy Carcassonne, et puis elle aussi. Et quand elle se peint, eh bien, elle n'est pas très flatteuse, elle n'est pas très sympathique avec elle-même.
Oui, c'est pour ça que je parle vraiment, enfin, facilement, volontiers d'œuvre, parce qu'il y a aussi ce travail-là que moi j'ai découvert quand on a commencé à travailler sur l'exposition et qu'on se rendait chez elle et qu'on travaillait dans l'atelier, dans les archives, mais on traversait la cuisine, le salon et il y avait ces merveilleuses peintures. Moi j'ai été, mais fascinée, quoi. C'était sublime. Il y a des portraits extrêmement beaux et d'une présence incroyable.
Quel est celui qui vous a le plus frappé?
C'était le premier, un portrait d'une de ses belles filles qui était sur fond jaune, extrêmement fort et présent.
Je fais pas de peinture. Hein.
Vous faites pas de peinture. Vous n'appelez pas la peinture.
Je
n'appelle
pas
vous
ça faites. De la peinture. C'est vraiment c'est de la distraction. C'est de l'art d'agrément.
Oui, l'art d'agrément, très réaliste. Hein.
Oui.
C'est un peu comme ça, des portraits à la Bonnard.
Je fais du portrait. À la Bonnard?
Non.
Non, Bonnard est un dangereux impressionniste.
Dangereux. Vous n'aimez pas les impressionnistes?
Dangereux par rapport à moi. Une espèce d'académisme désuet, mais moi j'aime bien ça. Je n'ai pas la technique des gens de la fin du 19e, mais...
Freud peut-être aussi, le peintre.
Lucien Freud. Donc vous c'est-à-dire, dans la mesure où Lucien Freud fait des portraits, je fais des portraits. Mais enfin, Rembrandt aussi, je fais des portraits, je ne m'en rapproche pas beaucoup.
Est-ce que vous voyez beaucoup de peintures? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous allez dans les musées?
Oui, je fais ce qu'il faut.
Bon, vous défendez pas comme ça, ne soyez pas caché derrière vos lunettes. Et derrière
non, mais vous savez, c'est toujours pareil. Alors, ça fait tellement partie de... Pour être l'honnête homme, il faut tellement s'intéresser à l'art, aux livres, au cinéma...
Vous la reconnaissez, là, votre amie Claire Bretéché, Blutch, Catherine Meurice, vous qui l'avez fréquentée, vous déjeuniez avec elle assez souvent. Est-ce que cette modestie est bien celle que vous connaissez?
Oh oui.
Non, mais c'est le goût du contre-pied aussi. C'est-à-dire qu'on me dit blanc, je réponds noir.
Ouais, exactement. Moi, je me souviens qu'elle se confiait, bien sûr, à René Pétillon, qui était un ami très cher, hein, n'est-ce pas, Blutch? On avait l'habitude de se voir ensemble. Claire, René, ouais. Blot et moi. Et elle disait à René que quand elle en avait marre, quand la BD ça marchait plus, que le trait était capricieux, elle faisait des autoportraits. Mais elle lui disait qu'il fallait vraiment être au fond du trou pour faire des autoportraits. Donc là encore, l'ennui, apparemment. Mais en effet, comme dit Blush, il y avait autre chose derrière.
Non, il y a autre chose derrière.
Cette politesse qui est tellement irrésistible.
Non, mais il y a autre chose dans ses travaux, dans les pastels et dans les portraits, dans les travaux dits picturaux, plus plastiques. Pour moi, c'est vraiment de la vie privée. C'est sa vie privée, en fait. Je pense que c'était pas spécialement destiné à être montré.
Elle peignait d'après photo, on le voit, hein, ses pastels,
ouais.
Ou ses peintures.
D'après Paula même.
Exactement, mais parce qu'elle cherchait à faire plus ressemblant que la photo. Ça, c'est chouette de passer par la peinture pour parler du réel. C'est vraiment une grande artiste.
Très beau. Tu sais, vous vous souvenez d'ailleurs, on parlait de René, il y a un très beau portrait de René, je crois.
Le dessinateur René Pétillon, oui.
Il y a un portrait de René avec la cigarette et puis son air, et voilà. Et bon, c'est des gens, nous, qui nous manquent beaucoup. Hein. On a perdu beaucoup de gens, là, en peu de temps. Voilà, mais j'ai... Aujourd'hui, bah, je pense à Gottlieb aussi, qui était un peu mon maître, qui m'a fait mettre le pied à l'étrier, comme on le dit vulgairement. Et puis, et René et Claire, oui, c'est... On va finir sur une note plus joyeuse.
Non, mais c'est bien de savoir qu'ils sont toujours avec vous, qu'ils sont toujours des exemples.
Ils sont tout le temps là. Ah oui, bien sûr. Ouais. Constamment.
Devant les yeux, dans la tête, partout, quoi.
J'ai l'impression que Bretéché vous donne de l'audace. Je pense particulièrement à Catherine qui disait tout à l'heure, j'essaie de m'inspirer parfois de son culot de dessinatrice, de son lâcher-prise.
Et de sa liberté. Je crois que la liberté, ça s'apprend, ça se peaufine. Il faut des modèles, des maîtres S-liberté. Et moi, j'en ai connu à Charlie Hebdo et en dehors de Charlie, bien sûr. Et Claire, c'est ça, c'est la liberté incarnée, quoi. Et c'est derrière ce je m'en foutisme, ce goût pour l'anodin, acheter des fringues, être avec les copines, etc. Tout ce qu'on sait d'elle, derrière, il y a la liberté immense. Et c'est un modèle à suivre, quoi. C'est pour s'émanciper à son tour. C'est prodigieux. Elle est très précieuse. Et je conjuguerai toujours cette phrase au présent.
Pareil pour vous qui avez travaillé à sa rétrospective, Isabelle Bastien-Duplex.
Oui, une très très grande liberté. Je l'admire beaucoup.
Blood, je vais vous demander un exercice totalement impossible, mais ça m'excite un peu. Si vous deviez dessiner là, en un dessin, tout ce qui s'est dit sur Bretéché dans son grand atelier pendant une heure.
La première vision qui me vient, c'est banal, hein, mais c'est une bibliothèque en fait. Après, c'est pas marrant à dessiner une bibliothèque, hein, mais je veux dire par là que ses bouquins, son travail est toujours à portée de main. Moi, Bretéché, comme Catherine, je la conjugue au présent. Je l'ai toujours en ligne de mire. Moi, j'aurais envie de dessiner. Quand elle est morte, la une de Libé, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup la photo là, où elle est assise dans un sofa avec ses bottes. Je la dessinerai comme ça, moi. Mais je ne sais pas si je l'ai représentée déjà. Je ne crois pas que je l'ai représentée elle-même.
Eh bien, on attend votre dessin.
J'ai pas osé m'approcher d'elle encore.
Allez-y, envoyez-le nous.
On aussi en même temps.
Ah oui, elle vous intimide, on le sent bien d'ailleurs. Vous n'osez pas parler d'œuvre à son sujet.
C'est quelqu'un tout de suite qui m'a. Il y a une distance qui s'est installée, hein, d'abord parce que c'était un monstre, un maître de la bande dessinée, et puis.
On n'a pas envie de se prendre au sérieux, on a toujours peur de se prendre au sérieux.
Oui, avec elle, oui, bien sûr. Oui.
Donc on n'ose pas utiliser les grands mots.
C'est vrai.
Ah oui.
Elle les aime tout, elle les amorce tout.
Parce que oui, la fatuité, c'est un truc qu'elle repère tout de suite, elle tire dessus.
Elle renifle ça.
La moindre. Ah ouais. La moindre once de prétention, de fatuité, alors ça, non. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est une boussole aussi. Ouais. Parce qu'elle nous préserve de ça.
Disons qu'on fait gaffe.
On serre les fesses.
On va vous surveiller. Catherine Meurice, Christian Blutsch depuis Strasbourg, Isabelle Bastien-Duplex, je vous remercie d'avoir rendu cet hommage
à votre
grande sœur, j'ai envie de dire. On indiquera les titres de vos ouvrages récents sur la page du Grand Atelier sur franceinter.fr, où vous pouvez aussi aller réécouter cette émission réalisée par Marco Mutel avec la collaboration de Karen D, Fanny Leroy, Mathilde Verfailly, Thierry Dupin à la musique et Hervé Dubreuil et Julien Bourdet à la technique. Je le signale que vous pouvez trouver chez Dargaud, Bretéché Morceaux Choisis, une étendue de son travail et un rappel de cette exposition que nous évoquions, l'exposition de la Bibliothèque publique d'information à Paris en 2015. Il y a aussi Tout Bretéché, une monographie, et Bretéché, le destin de Claire, un hommage à l'auteur qui reprend le numéro paru en juin 2020 du Nouvel Observateur, comprenant Les Frustrés et Agrippine. Après les informations, vous pourrez réécouter l'atelier de la photographe Sabine Weiss.